Bonsoir, entrons ensemble dans un temps du débat consacré ce soir à la dépression postpartum et à ses conséquences. À l'ordre du jour ce soir, la santé mentale des jeunes mères est-elle prise au sérieux? Une étude conjointe de Santé publique France et de l'INSERM sur les morts maternelles en France de 2016 à 2018, publiée la semaine dernière, nous apprend que le suicide est devenu la première cause de mortalité chez les jeunes mères devant les maladies cardiovasculaires. Cette étude peut surprendre celles et ceux qui n'ont pas suivi, en particulier la libération de la parole de celles pour lesquelles la naissance d'un enfant est une douleur qui dure au-delà de l'accouchement. Le fait qu'une mère sur cinq souffre d'une dépression postpartum peut s'expliquer par le desserrement des solidarités familiales, pas simplement d'ailleurs, de manque de sage-femme parfois, le manque de repérage, de crise psychologique chez la mère lors de la grossesse. Au 19e siècle, les médecins détectaient chez les jeunes accouchés ce qu'ils appelaient les fièvres et folies puerpérales. Aujourd'hui, on évoque la dépression périnatale, la dépression postpartum. Qu'est-ce exactement? Comment mieux les prévenir? 4 ans après les travaux de la commission des 1000 jours, en s'intéressant plutôt à la santé des mental des mères, c'est ce que nous allons voir avec nos invités. Marie-Noëlle Vacheron, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes psychiatre, chef de service à l'hôpital Sainte-Anne, experte associée pour le rapport sur la mortalité maternelle et engagée dans la prévention mentale chez les femmes. Avec nous également Chantal Birman, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sage-femme, militante des droits des femmes, des mères, de l'avortement et des sages-femmes. Avec nous également en studio, Emmanuel Berthiaud, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historienne, maîtresse de conférences en histoire moderne à Amiens et spécialiste des questions de naissance et de maternité au 18e, 19e et 20e siècle.
J'ai deux très bonnes amies qui m'ont pour le coup énormément suivie pendant la grossesse. Et j'ai appelé l'une d'elles et je lui ai dit « là, je vais pas bien ». Elle a tout de suite compris qu'en effet, il y avait quelque chose qui allait pas. Et donc, elle a prévenu les urgences en leur disant que j'allais venir. Moi, je me suis pas trop rendu compte de ce qui se passait réellement avec Mila à ce moment-là. Pour moi, tout ce que je faisais avec elle était un effort surhumain. Je le faisais parce que, en tant que mère, il fallait que je le fasse. Tout ce qui était soins, tout ce qui était allaitement, le bain, j'avais une crainte du bain. Et j'avais l'impression que tout, que je faisais tout mal et que tout était inatteignable, en fait. Enfin, je n'arrive à plus rien faire. Je pensais que si elle tombait malade et qu'elle devait mourir, bah, c'était mieux pour elle. Parce qu'au moins, elle n'avait pas la mère défaillante qu'elle a. Pour moi, elle était mieux sans moi.
Un extrait du reportage « Les pieds sur terre » sur France Culture intitulé « Des mères épuisées » d'Émilie Chaudet, réalisé par Anne-Laure Chanel, avec cette notion de mère défaillante. Est-ce que c'est ce que vous voyez ou vous entendez en tant que psychiatre et chef de service à l'hôpital Sainte-Anne, Marie-Noëlle Vacheron?
Alors effectivement, les femmes déprimées en postpartum, déjà elles ont du mal à en parler. Elles se sentent surtout donc très fatiguées, angoissées, souvent avec des pertes de sommeil, et dans une culpabilité importante par rapport à leur enfant dont elles n'arrivent pas à s'occuper. Souvent, donc, elles vivent un stress parental intense face à beaucoup de responsabilités qui leur arrivent puisqu'elles doivent s'occuper d'un enfant. Donc, elles s'auto-déprécient, elles doutent sur leurs compétences maternelles et parfois même elles peuvent avoir des idées de suicide qui peuvent apparaître. Mais ça, elles en parlent difficilement.
Et donc, c'est un travail que de leur faire dire cela et de peut-être permettre à partir de ce moment-là de mettre en place un moyen de les guérir ou de les soigner de cette dépression qui peut conduire au suicide. Chantal Birman, est-ce que c'est quelque chose que vous avez vu fréquemment dans votre travail de sage-femme et de militante de droits des femmes et des mères?
Alors, oui, très fréquemment. Alors, pour moi, ça se présente légèrement différemment, c'est-à-dire que ce sont des femmes qui pensaient que la maternité allait leur tomber dessus au moment où le bébé allait naître. Et elles constatent que elles regardent cet enfant comme un étranger à elles-mêmes, et elles n'arrivent pas à voir quel type de pont relationnel peut s'installer avec cet enfant. Il n'y a pas de pont. Et elles constatent cette absence de pont et elles ne peuvent pas le dire parce que la société attend d'elle l'essentiel, puisque la société, elle est construite sur la cellule parentale. La cellule parentale vient de naître et il y a le membre essentiel à cette cellule parentale qui est elle-même, qui est défaillant complètement puisqu'il n'y a rien qui se passe. Et là, elles sont effrayées par leur propre monstruosité. Et à travers cette monstruosité, elles vont... Alors moi, ce que je constate beaucoup en tant que sage-femme et qui me met tout de suite la puce à l'oreille, c'est les femmes qui me disent qu'il y a quelque chose autour de l'amour. Leur bébé ne les aime pas. C'est ça qu'elles me disent. Au lieu de dire qu'elles, elles ont un problème relationnel, ouais, elles n'arrivent pas à le dire. Et elles le traduisent, enfin, elles le transforment par l'inverse. C'est-à-dire, c'est le bébé qui n'arrive pas à les aimer, elles. Voilà. Et donc, dès qu'il y a ça, moi, je sais que c'est grave. Voilà.
Pour vous, en tant qu'historienne, Emmanuelle Berthiaud, est-ce que vous voyez les prémices justement de ce qu'on appelle aujourd'hui la dépression périnatale ou la dépression postpartum dans les archives que vous consultez, en particulier de l'époque moderne et de l'époque contemporaine ?
C'est très difficile à appréhender en tant qu'historienne, puisqu'effectivement, on a peu de traces du vécu du postpartum des femmes. C'est une période où les femmes sont très accaparées, écrivent peu, et donc on a pas mal de témoignages sur la grossesse, parfois sur une période plus tardive de la maternité, mais vraiment ce qui suit la naissance, c'est quelque chose de difficile à appréhender en fait par les sources. En tout cas, pour le 18-19e siècle, on commence fin 19e, début 20e à repérer davantage de choses.
Mais néanmoins, on a le discours des médecins.
Mais on a le discours des médecins, mais qui sont assez peu présents, en tout cas pour une bonne partie des suites d'accouchement, et qui s'intéressent assez peu finalement aux suites de couches. Les médecins se préoccupent beaucoup de l'accouchement à partir du 18-19e siècle, mais finalement ce sont surtout des femmes, des sages-femmes, des matrones, des gardes qui sont auprès des mères et qui constatent parfois ces troubles et ces difficultés. On verra que les médecins, eux, les repèrent, mais dans d'autres cadres, plutôt d'asile ou de situations médico-légales compliquées, mais pas forcément dans des maternités ordinaires.
Alors ça, justement... On voit bien, effectivement, Marie-Noëlle Vacheron, qu'il y a, et Chantal Birman, qu'il y a peut-être aussi quelque chose qui tient à cette vie moderne telle qu'elle s'est imposée, en particulier au cours du XXe siècle, avec une cellule, disons, familiale resserrée, avec évidemment moins de présence de la famille élargie autour de soi, et que peut-être la transmission entre mère et fille, et en l'occurrence mère et fille qui va devenir mère à ce moment-là, se fait peut-être différemment aujourd'hui qu'elle ne se faisait à cette époque-là, Marie-Noëlle Vacheron.
Oui, c'est effectivement les jeunes femmes qui présentent des dépressions sont souvent plus isolées. Elles ont aussi quelquefois des difficultés avec leur propre mère, ce qui fait que la transmission de la maternité est plus complexe. Ensuite, elles ont des vies un petit peu différentes. Elles travaillent, donc il y a aussi l'impact du travail, de leur place dans le travail qu'elles vont devoir retrouver ou qu'elles ont quitté, qui est difficile. Donc il y a un certain nombre d'éléments en fait qui peuvent favoriser la dépression chez la femme. Il y a également de la précarité par moment, et puis il y a le vécu propre de l'accouchement, de la grossesse, qui peut interagir sur cette dépression. Alors moi je voulais revenir aussi sur quelque chose par rapport à ce qui vient d'être dit, c'est que la dépression elle peut survenir très tôt après un accouchement, après le sixième jour, la première semaine. Elle peut aussi survenir un peu plus tard. Et quelquefois, elle est repérée à 3 mois, 4 mois, d'où la grande difficulté, en fait, de pouvoir déterminer cette dépression, de pouvoir la mettre en évidence.
C'est pour ça qu'on a élargi, d'ailleurs, ce cadre d'études, d'une certaine manière, à un an après la naissance. Exactement. Alors qu'auparavant, c'était plutôt 3 ou 4 mois, d'après ce que j'ai cru comprendre.
Exactement, parce que ces dépressions, elles peuvent s'installer de façon très insidieuse, ou au contraire, apparaître vers 3 mois, 4 mois, au moment où la femme doit reprendre le travail, au moment où son conjoint reprend le travail, enfin, il y a beaucoup d'éléments, en fait. Ou alors au moment où la femme est confrontée, peut-être, à des difficultés de couple qui sont liées à l'arrivée d'un bébé.
Oui, sans compter que parfois, c'est ce que disent certaines qui travaillent sur ces questions-là, eh bien, les hommes aussi vivent un moment particulier, sinon sûrement beaucoup moins difficile que les mères, et qui développent parfois des conduites d'alcoolisation, de consommation de produits illicites, disent certaines, qui rendent encore plus difficile la capacité des mères à s'occuper de ce nouvel être qui vient de gagner leur foyer. Est-ce qu'on sait, Chantal Birman, ce que l'on peut comprendre de ce, sinon du déni de grossesse, mais de l'ambiguïté de grossesse ?
Alors, l'ambiguïté de grossesse, c'est quelque chose qui arrive plutôt en début de grossesse.
Oui.
Qui peut, qui se dit ou qui ne peut pas se dire. Voilà. Alors, aujourd'hui, on est c'est plus difficile à dire aujourd'hui, justement à cause des acquis des femmes. Comme elles ont la contraception et l'avortement, il se trouve que faire un enfant est, a priori, un choix volontaire. Et donc, tout l'aspect renonciation à la vie sans enfant a priori été fait auparavant. Mmh. C'est-à-dire qu'on considère que c'est un choix libre.
Absolument.
Aujourd'hui.
Oui.
Ce qui fait que l'ambiguïté elle-même est plus difficile à dire. On peut d'un seul coup tomber enceinte et se rendre compte avec la grossesse, alors qu'on désirait un enfant, que d'un seul coup, c'est peut-être pas ça qu'on voulait finalement. C'était juste le fait de pouvoir être enceinte. Et ça, on l'a vu, puisqu'à quelques reprises, on a vu que dans les procréations médicalement assistées avec des femmes qui avaient des parcours de stérilité pendant longtemps, mmh. et bien finalement, une fois qu'elles étaient enceintes sur une procréation voulue, et difficile à obtenir. Elle, évidemment, c'est très rare, mais on peut aboutir à une interruption de grossesse. Voilà, c'est juste pour éclairer l'ambiguïté. Voilà que je dis ça.
Et avec aussi cette question qu'effectivement, dans ce contexte, disons, de libération du droit des femmes, eh bien, peut-être certaines, l'entourage en tout cas, dit voilà, tu dois être heureuse, tu dois être, ça doit être, c'est un moment forcément joyeux d'une certaine manière. En tout cas, c'est comme ça qu'on veut le dire dans l'entourage. Et évidemment, on a du mal à dire que c'est moins joyeux que ce que l'on dit autour de soi, quand elle bien ment.
Oui, alors, il y a plusieurs éléments. Il y a d'abord l'élément, vous avez parlé, générationnel. Les grands-mères ne sont pas formées à devenir grand-mères. De même qu'il y a eu une préparation autour de l'accouchement et des femmes. Il existe pour l'instant un seul pays en Europe qui prévoit une préparation à devenir grand-mère, c'est l'Espagne qui a deux cours de préparation à la grande maternité. L'Espagne, sur ce plan-là, on l'a bien vu avec...
sur beaucoup de sujets sociétaux et voilà, très en avance sur d'autres pays.
Sont très en avance. Donc, il y a un vrai rôle de la grand-mère qui est d'être la mère de sa fille. Et non pas la mère du petit enfant. Voilà. Donc, et donc de marquer cette génération-là, parce que la fille, au moment de l'accouchement, a besoin de consolation. Donc, on a besoin d'une grand-mère qui sache consoler sa fille profondément. Et ça, il faut comprendre comment ça se passe, toutes les formes de consolation à ce moment-là. Alors, c'est un savoir qu'ont beaucoup les sages-femmes, parce que on pratique beaucoup ça. Quand les grands-mères ne sont pas là, vu du fait que les grands-mères travaillent aujourd'hui beaucoup. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est la première partie pour répondre à votre question. La deuxième partie, c'était quoi la deuxième partie de votre question?
Non, c'était. Vous avez répondu à la totalité de ma question. Donc,
ah bon, d'accord.
Merci. Je donne la parole à Emmanuel Berthiaud, justement, cette question de la place d'un environnement plus vaste autour de la jeune accouchée, c'est quelque chose d'important?
De très important, en tout cas dans les sociétés dites traditionnelles, on va dire au moins jusqu'au 18-19e siècle, voire jusqu'aux années 1950, hein, encore dans les campagnes en France. Et on a vraiment conscience de la vulnérabilité particulière de la jeune mère, qui nécessite une protection, un accompagnement particulier. Et on peut presque parler de quarantaine, hein, les 40 jours en gros au moins après l'accouchement, où on va éloigner la jeune mère de la vie normale et quotidienne. Elle doit rester au lit, elle doit être, elle doit avoir une alimentation particulière, pas de travaux ménagers. Et surtout, elle est pas isolée. Elle ne doit pas rester seule et être entourée, et en particulier de sa mère. Là,
parce qu'on a conscience, justement, de la possibilité de ce qu'on appelle une dépression, qui ne s'appelle pas une dépression, j'imagine, au 18e.
Ça n'est pas forcément ça. C'est déjà lié à des risques qui ont été longtemps très importants d'hémorragie, d'infection. Aussi au fait qu'on avait conscience que la femme devait récupérer physiquement, restaurer ses forces. Et puis, l'air de rien, l'accouchement induisait aussi une rupture. L'utérus était vide, ouvert, on craint des forces maléfiques. Bref, on ne doit pas tout de suite remettre la femme, entre guillemets, dans la société. Et donc, on devait l'accompagner, et la mère de la femme enceinte, effectivement, et qui a accouché, joue un rôle particulièrement important. On sait que les femmes, elles allaient accoucher chez leur mère, ou que leur mère venait à domicile pour au moins la première maternité, et donc il y avait une présence forte.
Est-ce que l'émergence, et même le remplacement, pourrait-on dire, d'une sororité autour de la jeune accouchée, par les médecins, qui sont des médecins hommes tout au long du 19e siècle, change considérablement quelque chose? Et est-ce que justement cette médicalisation de l'accouchement pratique une rupture peut-être dans la prise en compte justement de ces questions autour de la suite d'accouchement de la jeune mère?
La médicalisation de l'accouchement a pu effectivement induire un changement dans les solidarités traditionnelles, mais c'est pas seulement la présence du médecin, c'est presque finalement plus le passage à l'hôpital qui va rompre ces solidarités traditionnelles. Parce que finalement, le médecin, quand on y avait recours, intervenait pour l'accouchement, mais ensuite ne restait pas. Et finalement, c'est voilà, une sage-femme, une matrone, une garde, une femme qui aide, ou justement des femmes de l'entourage qui pouvaient quand même assurer cette assistance. C'est plutôt le passage à l'hôpital où la médecine s'est préoccupée des risques de santé, mais n'a pas forcément fait cet accompagnement humain. Alors que font les sages-femmes, hein, pour le coup, quand elles le peuvent et qu'elles sont suffisamment nombreuses.
Est-ce que cette étude de Marie-Noëlle Vacheron, donc sur la mortalité maternelle, vous avez été associée à cette étude en tant qu'experte, nous dit quelque chose de différent de ce que l'on croyait d'une certaine manière? Ce sont des études qui reviennent très régulièrement. Là, elle s'arrête en 2018, cette question-là. Mais on voit par exemple qu'il y a des particularités régionales. Pourquoi le centre Val-de-Loire a-t-il plus de dépression postpartum et de suicide de mère, par exemple? C'est difficile à savoir. Qu'est-ce qu'on peut savoir de tout cela?
Ce qu'on peut savoir déjà, c'est que la dépression du postpartum, elle est importante. Elle est peut-être sous-estimée, encore maintenant, hein, 20% des femmes, c'est énorme. Ensuite, une fois qu'on l'a repérée, qu'est-ce qu'on fait avec cette dépression? Comment on aide à orienter ces femmes? Ça, c'est important, car souvent, c'est vrai qu'on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est souvent le lien à l'enfant qui pose question à cette mère et puis et qui lui pose problème aussi. Et puis ce qu'on sait aussi, c'est que une partie de ces dépressions pourrait être évitable, enfin une partie des suicides pourrait être évitable. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'ensemble des femmes qu'on a vues, il y en a pas tant que ça, hein, mais ça fait quand même une grosse proportion par rapport au nombre de décès par mortalité maternelle. En fait, on s'aperçoit que la moitié de ces femmes avaient des antécédents psychiatriques auparavant, soit à l'adolescence, soit auparavant, et qui étaient méconnus des maternités.
Donc ça veut dire qu'il faut mettre en place des entretiens systématiques pendant la grossesse, par exemple?
Ça veut dire déjà que c'est important de pouvoir se préoccuper de la santé mentale, au même titre de la santé physique, par tous les intervenants qui gravitent autour de la femme, parce que cette femme, elle va avoir un maximum de contact, en fait, auprès d'elle, que ce soit en prépartum ou en postpartum, soit pour le suivi de sa grossesse, soit en postpartum avec la sage-femme, soit ensuite, par la suite, pour le suivi de son enfant. Et donc, il y a un certain nombre de personnes de premier recours, en fait, des premières lignes, en fait, qui vont pouvoir rencontrer cette femme et peut-être poser des questions sur sa santé mentale, ce qu'on ne faisait pas auparavant. Auparavant, on se préoccupait surtout de la santé physique des femmes.
Est-ce que cela, Chantal Birman, c'est possible dans l'état actuel de l'hôpital, dans l'état actuel des structures de santé, c'est-à-dire avec des temps qui sont comptés, parce que évidemment, quand on manque de sages-femmes, on manque de personnel médicaux, et on n'a peut-être pas suffisamment de temps pour pouvoir se permettre de faire ce travail en profondeur avec la future mère?
Alors, c'est évidemment impossible, hein, et ça, on l'a très bien montré, de quoi était faite une consultation. Une femme commence à parler quand elle se sent en sécurité avec vous, sur le plan psychique, ce qui n'est pas la même chose que de faire un toucher vaginal ou de prendre une hauteur utérine. Ça, vous pouvez le faire sans beaucoup, beaucoup de rapprochement psychologique avec la personne. Il y a besoin d'une mise en confiance. Or, évidemment que l'interrogatoire, c'est le démarrage de ce que vous allez chercher. Et il est bien normal que l'interrogatoire clinique de la personne et dans ses antécédents soit en premier. Donc, quand vous faites l'interrogatoire, vous avez effectivement des phrases systématiques. Avez-vous été victime dans votre vie de violence? Vous les avez, ces phrases-là, vous les dites. Et évidemment qu'à ce moment-là, la phrase dit non. Sauf que, une fois que vous l'avez palpée, que vous lui expliquez où est-ce qu'est son bébé, que vous avez fait un rapprochement avec elle au niveau de votre consultation, elle va d'un seul coup vous dire, au moment où elle sort de votre consultation, j'ai quelque chose à vous dire, vous m'avez posé cette question-là tout à l'heure, mais finalement, en y réfléchissant, et bien voilà, et bing!
Ça vous est arrivé, ça?
Ça m'est pas arrivé une fois, ça m'est arrivé 100 fois. Oui. 100 fois. Sauf que vous, vous avez dans la salle d'attente une femme qui est là et qui va aller chercher ses autres enfants à l'école. D'accord ? Et là, vous savez que c'est une deuxième consultation qui commence et qu'il n'y a pas le temps. C'était une consultation non prévue, qui est par contre complètement indispensable. Donc, évidemment que vous êtes prête à prendre ce temps-là, mais la dame qui attend pour aller chercher ses enfants à l'école qui est derrière, elle, elle n'est pas prête à ce qu'on lui mette son enfant au niveau du poste de police parce qu'elle n'est pas venue chercher son enfant à l'heure à l'école. Voilà. Donc, c'est incompatible avec nos temps actuels de
consultation.
Ni même avec la vision de ce qu'est le métier de sage-femme. Comme l'a très bien dit Emmanuel Berthaud tout à l'heure, le métier de sage-femme, ce n'est pas un métier qui est uniquement clinique ou autour de la pathologie. C'est un métier qui fait l'aller-retour entre le psychisme et l'utérus. Et donc, on est tout le temps dans ce mouvement, nous, les sages-femmes. Et à un moment donné, on voit qu'il y a quelque chose qui peut être très bien du coin de vue de l'utérus, mais qui, d'un seul coup, fonctionne pas très bien du point de vue du psychisme. Et c'est... Et que donc, il y a une interruption de cet aller-retour. Et nous, on connaît par cœur l'aller-retour. Et c'est là où on sait qu'il y a une pathologie et qu'il faut qu'on l'adresse à quelqu'un d'autre, qu'on fait un diagnostic.
Emmanuel Berthiaud, puisque on vous donnait raison par la bouche de Chantal Birman sur ces questions, justement.
C'est assez compliqué, effectivement, d'arriver à prendre le temps de ces choses-là. Et c'est intéressant de voir que ça nécessite aussi une expérience, d'avoir un certain nombre de patients pour pouvoir repérer les choses et les sentir. Et c'est aussi intéressant de voir que c'est justement quand les médecins ont commencé à concentrer les aliénés dans des asiles et qu'on a commencé à séparer les sexes, que justement on a pris conscience qu'il y avait des désordres liés à la maternité.
C'est pour ça qu'on appelait ça les folies puerpérales.
Voilà, justement, on a commencé à appeler ça les folies ou manies puerpérales, c'est en gros vers le milieu du 19e siècle. Voilà, et au départ on avait une approche plutôt physiologique de la maternité en pensant que c'était l'utérus ou des humeurs féminines qui fonctionnaient pas très bien. Et c'est peu à peu finalement qu'on a pris conscience que c'était au niveau du psychisme, de la psyché, qu'il y a des choses qui se passaient.
C'est Louis Victor Marsay qui disait en 1858 « Les femmes enceintes, les nouvelles accouchées et les nourrices sont exposées à des troubles intellectuels qui, tout en se confondant intimement avec les formes ordinaires de la folie, n'en diffèrent pas moins d'une manière notable par les conditions organiques au milieu desquelles ils se développent. »
J'ai fait la visite des 3 mois du bébé et là je me suis complètement effondrée devant le médecin. J'étais tellement angoissée que j'avais des nausées et puis j'ai vraiment beaucoup pleuré et je lui ai dit je n'en peux plus, j'aimerais être hospitalisée, par moments je me dis que c'est ce qu'il me faudrait. Et le médecin m'a dit écoutez, j'allais vous le proposer, on pourrait envisager une hospitalisation dans une structure mère-enfant. Sur le carnet de santé pour la visite des 3 mois, c'est écrit épuisement maternel, une flèche, hospitalisation, point d'interrogation. Et avant l'admission à l'hôpital, j'ai dormi tous les soirs avec du monde à la maison parce que je me sentais incapable d'être seule avec mon enfant à la maison. Je me disais, si je pète un plomb et que je lui fais du mal, et si je suis trop à bout, puis j'ai été admise la semaine suivante.
France Culture, le temps du débat. Emmanuel Laurentin.
18h43, vous écoutez le temps du débat. Un extrait encore du reportage Les mères épuisées d'Émilie Chaudet, réalisé par Anne-Laure Chanel, diffusé sur France Culture dans l'émission Les pieds sur terre. Qu'est-ce que change cette commission des 1000 jours qui a été mise en place à partir de l'année 2020 par le ministère de la Santé? Qu'est-ce que ça change, Marie-Noëlle Vacheron, de s'être intéressée justement sur cette plus longue durée à la question justement des femmes qui deviennent mères?
Alors déjà, donc c'est une commission qui permet d'essayer de soutenir les parents, puisque vous avez aussi la petite appli gratuite à télécharger pour les parents pour suivre tout le déroulé de la grossesse, pour savoir comment ça se passe. Ensuite, il y a un certain nombre d'éléments qui ont été mis en place, comme l'entretien prénatal et postnatal obligatoire, donc pour toutes les femmes. Ensuite, la question d'un coordonnateur de parcours qui est souvent une sage-femme au niveau de la maternité lorsque les parcours sont justement un peu plus complexes, quand les femmes sont repérées comme ayant des pathologies psychiques ou autres, pour essayer de coordonner tous les intervenants, car finalement, autour d'une femme enceinte ou qui vient d'accoucher, on n'est jamais tout seul. Il faut pouvoir travailler Alors nous, on est des, enfin moi je suis psychiatre, mais il faut pouvoir travailler avec le pédopsychiatre parce que c'est lui qui va être spécialiste dans le lien avec la maman, entre le bébé et la maman. Il faut pouvoir travailler avec la sage-femme. Souvent les femmes, quand elles n'ont pas vraiment de risque obstétrical identifié, elles vont s'inscrire en maternité, puis être suivies en ville, soit par un obstétricien, soit par une sage-femme. Et c'est extrêmement important de pouvoir repérer cette sage-femme qui va suivre tout au long de la grossesse et du postpartum la femme. Parce que là, comme on le disait tout à l'heure, ça crée une relation de confiance. Et puis, on peut quelquefois dépister des petits signes chez une femme qu'on commence à connaître, même en dehors de la parole, par une attitude. Donc ensuite, ce qui a changé également, c'est le congé du père, qui a été allongé, et ce qui est un véritable soutien pour les mères, en fait, qui ne se retrouvent pas toutes seules en tout début du postpartum.
Et cela, justement.
Qui soutient également les pères, parce que c'est vrai que les pères peuvent également être déprimés, même s'ils ne le manifestent pas de la même façon que les femmes. Vous parliez des addictions, mais souvent, donc, les pères deviennent plus irritables quand ils sont déprimés, plus.
Peut-être plus violents, parfois même.
Parfois plus violents, effectivement. Et puis, ils ont souvent des recours aux addictions, c'est vrai. Il y a 8% des hommes qui présentent des dépressions.
Oui,
et encore, on les identifie pas très bien encore.
Cette question, Chantal Birman, vous paraît importante que, évidemment, le père participe à cet après-accouchement pour soutenir celle qui vient d'accoucher ?
Alors oui, par contre, je pense que... Les femmes, comme je l'ai dit tout à l'heure, ont besoin de consolation maternante dans les suites de couches, très importantes, et d'être confirmées dans leur puissance à être mère. Voilà, c'est très important. C'est pour ça que normalement, c'est avec le corps que ça se passe au moment de l'accouchement, cette puissance, la découverte de cette puissance. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, avec l'anesthésie péridurale, le corps, il est un petit peu mis de côté, ce qui fait que le passage dans la génération suivante, qui est le moment de l'accouchement, où on meurt à sa génération et où on met la génération suivante au monde, ce passage-là se fait sous anesthésie dans quasiment 90% des femmes aujourd'hui. Donc, du coup, elles se retrouvent un petit peu sur la même génération que celle du bébé, parce qu'elles n'ont pas eu cette expérience corporelle. Et donc...
On pourrait dire que c'est tout de même un progrès médical, en l'occurrence.
Alors, c'est un immense progrès médical, car je n'ai, depuis la péridurale, je n'ai jamais vu de femmes traumatisées comme je les voyais avant, puisque moi, j'ai été sage-femme avant la péridurale. Mais attention, la péridurale, les traumatismes de l'accouchement dus à la douleur étaient autour de 25%, même moins que ça. Et c'était bien normal qu'avec la péridurale, on monte jusqu'à du 40-50%. On est à 90%. Alors, les 90%, c'est simple. C'est du fait qu'on ne veut pas abandonner les femmes quand on en a quatre à suivre en même temps. On sait très bien qu'on ne pourra pas les accompagner.
En tant que sage-femme, vous voulez dire, c'est
ça ? En tant que sage-femme. Les sages-femmes de salle, elles se retrouvent avec un nombre de femmes qui fait que c'est... Que pour pouvoir faire un accouchement où le corps parle, bah, il faut être à côté, hein, surtout à la fin de l'accouchement, quoi, on va dire dans les deux dernières heures. Si vous ne pouvez pas être à côté, vous savez que la femme va être seule. Passer ce moment-là seule, alors que ce soit à travers les âges pour les historiennes, ça n'a jamais été des femmes seules qui accouchaient.
Bien sûr.
Elles ont toujours été accompagnées d'autres femmes. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce moment où il faut croire en l'expérience de l'autre femme plus qu'en ce que vous dit votre propre expérience momentanée de l'urgence qui est « je ne peux pas aller plus loin ». Et donc, il faut qu'il y ait une femme qui soit là, qui vous dit « moi, je sais que tu es en train d'aller plus loin ». Et cette confiance-là, est, ça, c'est à partir de là qu'on appelle ça la sororité maximum. On ne peut pas aller plus loin dans une sororité.
Emmanuel Berthiaud.
Je pense effectivement que cette surveillance médicale, elle a apporté d'immenses progrès pour les femmes en termes de risques sur la maternité, mais c'est vrai que ça dépossède aussi d'une certaine manière la femme de certaines capacités et savoirs. En tout cas, pendant la grossesse et l'accouchement, la femme est très protégée, très surveillée, mais quelque part, paradoxalement, après, une fois qu'elle est mère, on la lâche dans la nature sans finalement tellement la prévenir de ce qu'il attend ou lui donner finalement le mode d'emploi. Et je pense que c'est ce qui explique aussi ce désarroi. Il y a aussi une forme d'idéalisation de la maternité, de la grossesse et pas forcément des difficultés de la suite. Et je pense que voilà, les femmes et les pères aussi sont un peu perdus parfois dans cette expérience malgré le fait que l'enfant soit désiré. Il y a un manque effectivement probablement d'accompagnement de ces moments-là.
Marie-Noël Vacheron, qu'est-ce qui... parce que nous parlons de deux choses qui sont en gradation différente, pourrait-on dire. La dépression postpartum, donc qui est mentionnée dans cette étude de Santé publique France et de l'INSERM, mais aussi l'augmentation des suicides des jeunes mères. Qu'est-ce qui permettrait justement de faire en sorte que cette dépression puisse la réduire, bien évidemment, mais surtout qu'elle ne conduise pas au suicide des jeunes mères?
Déjà, il faudrait pouvoir la dépister. Il faudrait pouvoir la dépister, c'est-à-dire qu'en fait, il faudrait pouvoir déstigmatiser donc le fait qu'on peut être déprimé, on peut se sentir mal quand on vient d'accoucher, et donc il faut en parler. Donc là, c'est l'importance aussi de toutes, vous savez, les associations, de tout ce qu'on peut voir actuellement comme articles qui peuvent aider ces jeunes mères qui se disent « Tiens, moi aussi, je me sens pas bien, moi aussi, j'ai vécu ça ». Donc là, les petits extraits que vous avez passés. Donc ça, c'est un énorme...
Cette prise de conscience collective, si vous voulez. C'est une prise de conscience collective d'une certaine manière.
Ouais. Et cette libération de la parole, ça peut considérablement aider les femmes à pouvoir verbaliser que oui, on peut être déprimé, on peut sentir une mauvaise mère. Et c'est pas pour ça qu'on va vous retirer votre enfant ou que vous ne pouvez pas élever votre enfant par la suite.
Oui, et il y a aussi le retour au travail, il y a aussi effectivement pour beaucoup des mères un retour à ce travail, et puis le regard que porte l'employeur sur la jeune mère arrivée au travail, ça doit participer aussi peut-être avec un peu plus de bienveillance à la possibilité de réduire ces risques.
Exactement, je pense que ça c'est très important, même quand vous annoncez une grossesse, on attend 3 mois, il y a les 3 mois silencieux finalement pour être sûr que le bébé s'accroche et pour lequel pendant ces 3 premiers mois où vous n'êtes pas forcément très très bien, où ces femmes sont fatiguées, elles ne disent rien et puis elles annoncent ensuite à leur employeur qu'elles sont enceintes, on leur dit que c'est merveilleux mais tout en leur disant comment est-ce qu'on va faire?
Ouais.
Et il y a ce double discours permanent, en fait, qui peut culpabiliser une femme.
Sans compter, pourrait-on dire, Chantal Birman, que, on peut laisser entendre aussi que le parcours professionnel de la mère sera peut-être ralenti par cette grossesse et que, effectivement, la progression financière des hommes de la même entreprise, par exemple, sera plus grande.
C'est pas que on le laisse entrevoir, c'est que c'est une réalité.
Bien sûr que c'est une réalité, mais j'entends bien ce que je veux dire, c'est que les employeurs peuvent laisser entendre cela aux mères nouvellement accouchées ou qui vont accoucher en leur disant.
Les employeurs, ils ont réellement intérêt, effectivement, à employer des hommes. Ils vont s'arrêter beaucoup moins pour maladie d'enfant, sauf s'il y avait une loi qui alternait les arrêts de travail hommes-femmes quand les deux travaillent obligatoirement. Si c'est pas comme ça, c'est les femmes qui s'arrêtent si l'enfant est malade, à 80 ou 90% des fois. Oui, et donc pour l'employeur, effectivement, objectivement, c'est des journées en moins à remplacer. C'est d'un point de vue strictement pratique. Donc, bien sûr que tout peut s'organiser autrement. Et puis, il y a autre chose, c'est que du côté de l'emploi même, quand un homme annonce que sa femme est enceinte, il y a quelque chose de l'ordre de la responsabilité sociale qui est perçu là et qui va faire souvent qu'il va y avoir une forme de promotion dans le travail. Moi, j'ai remarqué en préparation, quand je parlais de ça, je dis qui a eu une promotion parmi les hommes qui sont là ? 80% pendant la grossesse ou juste après étaient en voie d'avoir une promotion sociale. Ce qui n'était pas le cas des femmes enceintes.
On peut le comprendre,
donc,
effectivement.
Ce que je veux dire, c'est que la société accompagne inconsciemment, c'était pas conscient, inconsciemment, toutes ces choses-là. Donc tout ça, c'est une réflexion. Et tout à l'heure, ce que vous avez dit sur l'arrêt des hommes, qui a été mis en place maintenant, ça les congés paternité, c'est à la fois une très bonne chose, parce que du coup, ils sont auprès de leur femme, mais quelque part, ils sont renvoyés au quotidien. C'est-à-dire, c'est une forme de partage du quotidien. Et pour peu que ce soit un deuxième enfant, En gros, il se retrouve en charge de l'aîné et la femme du bébé. Donc, ça, on se retrouve avec chacun de sien. Et puis, s'il est gentil, s'il est compréhensif, il va faire les courses, voir le ménage, etc. Donc, il va être en charge de beaucoup de choses qui sont, on va dire, connotées féminines. Mmh. Voilà. Et à la fois... il va pas être tellement heureux là-dedans et il va attendre qu'une seule chose, c'est de reprendre son travail avec beaucoup de joie parce que il va trouver qu'effectivement, il va le dire d'ailleurs après ça, que c'est un gros boulot pour un homme que d'être que d'avoir un enfant. Et d'un seul coup, il va en prendre conscience. Ouais. Pas forcément, il va pas forcément se mettre à boire ni à taper. Il va juste être très content
de retourner au travail.
Ouais. Alors, c'était pas ça le but.
Et Emmanuel
le but, c'était qu'ils aient du temps pour reconstruire leur couple parental.
Bien sûr. Emmanuel Berthiaud, est-ce que justement ce que vous voyez de l'évolution du welfare state au XXe siècle, de la manière dont on a pris en charge justement des questions, l'État a pris en charge des questions qui étaient prises en charge autrefois par les familles ou par les communautés autour de la mère, change quelque chose de très radical par rapport à ce que vous connaissez en tant qu'historienne?
Ça change des choses dans le sens où il y a eu effectivement un intérêt pour la maternité, l'enfance, des congés de maternité, des choses qui ont permis quand même une amélioration du vécu et de la prise en charge de la maternité et de la petite enfance. Mais on a aussi renvoyé finalement aux individus tout un tas de responsabilités qui fait qu'ils se retrouvent souvent seuls justement dans cette expérience-là. Et on manque toujours de prise en charge quand même collective et donc politique aussi sur ces questions-là.
Et en même temps, on réclamait à un certain temps justement la séparation de la famille, de la belle-mère et
c'est
du beau-père,
etc. Donne de la liberté en fait aux individus, mais du coup il y a une responsabilité énorme, et notamment chez les femmes qui ont conquis le droit de travailler de manière salariée en dehors, etc., mais qui doivent rester à la fois donc une travailleuse, une bonne mère, une épouse sexy, et qui doivent faire face à toutes ces injonctions, et donc la pression est très forte et ça reste compliqué à rendre compatible.
Et cela, justement, Marie-Noëlle Vacheron, est-ce que vous espérez que peut-être le prochain rapport ou la prochaine étude de Santé publique France et de l'INSERM qui portera sur la période d'après 2018 soit moins catastrophique que celle que nous avons connue depuis la semaine dernière?
Écoute, on y travaille en tout cas. On y travaille en se rendant compte aussi que toutes les femmes ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, il faut vraiment apporter un suivi attentif et individualisé en fait à chacune, parce que tout le monde n'a pas besoin des mêmes soins et de la même gradation de soins. Et donc là, on entendait un petit extrait d'une femme qui avait besoin d'une unité mère-bébé. Quelquefois, il faut juste un suivi psychologique. D'autres, parfois, il faut des consultations régulières avec le bébé et un pédopsychiatre. Donc en fait, il y a toute une gradation en fait d'accompagnement qui peut être proposée.
Et les traitements médicamenteux sont-ils utiles pour terminer peut-être?
Ils sont utiles dans les dépressions caractérisées, mais toutes les dépressions ne nécessitent pas un traitement médicamenteux. Ensuite, il faut savoir aussi que toutes les femmes ne sont pas toujours favorables à un traitement. Mmh. D'une part parce qu'elles ont peur de ne pas se réveiller, d'autre part parce qu'elles allaitent et qu'elles ont peur que le traitement passe le lait maternel. Mmh. Et enfin, prendre un traitement, c'est stigmatiser sur « je suis malade ».
Exactement.
Donc en fait, il faut apporter des soins gradués. Quelquefois, une simple écoute psychothérapique peut fonctionner.
Peut suffire.
En revanche, une dépression caractérisée avec un ralentissement, une péjoration de l'avenir, des idées noires, des idées de suicide, il faut traiter.
Merci à vous, Marie-Noëlle Vacheron. Je rappelle que vous êtes psychiatre et chef de service à l'hôpital Sainte-Anne. Emmanuel Berthiaud était avec nous. Elle est historienne et maîtresse de conférences en histoire moderne à Amiens. Et Chantal Birman nous a accompagné également toute cette émission. Elle est sage-femme, militante des droits des femmes, des mères, de l'avortement et des sages-femmes. Le temps du débat a été préparé ce soir par Roxane Poulin, Mathias Mégy, Nina Richard, Anouk Sevno, Stéphanie Villeneuve, réalisé par Laurence Malonda, avec à la technique Ruben Carmazine.